Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une les violents orages de ces dernières heures. Le temps est très agité après la canicule et les dégâts, vous allez voir, sont importants, notamment en Gironde, où l'on rejoindra Stéphane Place. Les grandes manœuvres politiques à l'Élysée et à Matignon, Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti et Elisabeth Borne confirmée ce matin dans son poste de Première ministre, va réunir son gouvernement cet après-midi. Les informations de Jacques Serret à suivre. Marine Le Pen a rendez-vous à 17h30 avec le président de la République. Que va-t-elle lui dire ? Victor Chabert lui a posé la question. Vous l'entendrez. Et puis vous entendrez également la fanfare des gardiens de la paix. Et oui, en ce jour de fête de la musique, la fête de la musique qui fête d'ailleurs cette année ses 40 ans. Et puis comment sortir de cette impasse politique ? On en parle avec vous au 39-21 et avec Roland Lescure, porte-parole de La République En Marche et député des Français d'Amérique du Nord. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Et avec Guillaume Guérin. Bonjour Guillaume Guérin.
Bonjour.
Vous êtes président de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France et président du parti Les Républicains en Haute-Vienne. Et à tout de suite, tous les deux.
Europe 1.
Des grêlons de la taille d'une balle de golf, de violentes rafales de vent. Le sud-ouest du pays a connu la nuit dernière des orages de haute intensité. La Gironde, la Dordogne et les Charentes sont les secteurs les plus touchés. De nombreuses maisons ont été endommagées. Les autorités parlent de 4 blessés et de 15 000 coupures d'électricité. Stéphane Place avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Vous avez rencontré des habitants touchés par ces intempéries au Taillan-Médoc.
Oui, c'est vrai qu'au lendemain de ces violents orages de grêle ici au Taillan-Médoc, face à l'ampleur des dégâts, on lit la sidération dans le regard de nombreux habitants ou commerçants, comme Kader qui est à la tête d'un garage dans cette commune girondine. Ce chef d'entreprise peine à trouver les mots en arrivant sur le grand parking où sont stockées les voitures.
On dirait qu'elles se sont fait massacrer à coups de batte, c'est impressionnant. Il doit y avoir une centaine de véhicules. Il n'y en a pas une qui est intacte. Elles sont toutes même pas abîmé, c'est foutu quoi.
C'est pas juste les pare-brises.
Pas que, la carrosserie, tout est enfoncé comme si ça a été arraché. Même les rétros arrachés, tout ce qui sont devant là, c'est voiture avant. Enfin, même si l'assurance réagit vite, racheter des véhicules, parce que tous ces véhicules, je pense qu'ils sont irréparables.
Bon pour la casse là.
Ah oui.
Des échelles, des bâches partout là, autour de moi, dans le quartier où je me trouve. On s'active sur les toits percés par les grêlons. Beaucoup, il faut le dire, redoutent de nouvelles averses. Nathalie, elle est encore sous le choc après l'orage qui n'a pas épargné sa maison.
C'est pas une ruine, mais bon, il y a des voies d'eau partout. Ça a tout troué. Là, il faut vraiment qu'on vienne nous mettre des bâches. Ça a été un cataclysme. Puis on a vu grossir les grêlons, quasiment la taille d'une balle de tennis.
Et ici, la mairie a ouvert un accueil d'urgence, vous savez Romain, pour aider les habitants qui ne peuvent pas rester chez eux, eh bien, à se reloger. Les accompagner également parfois dans leurs démarches administratives au Taillan-Médoc. Et c'est réconfortant, on le perçoit, la solidarité entre voisins notamment s'organise.
Stéphane Place, merci beaucoup Stéphane, en direct donc du Taillan-Médoc. En Gironde, 12 départements sont toujours en alerte orange aux orages, non plus dans le sud-ouest, mais dans le centre-est du pays. Point météo complet avec Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Depuis le revers électoral de la majorité présidentielle ce dimanche aux législatives, la question du maintien à Matignon d'Elisabeth Borne se posait très sérieusement. Mais ce matin, la démission présentée par la Première ministre a été refusée par Emmanuel Macron pour, je cite, « que le gouvernement reste à la tâche ». C'est ce que dit l'Élysée. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
On vous retrouve dans la cour du palais présidentiel. Cette reconduction d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, c'est un message politique ?
Oui, Emmanuel Macron veut montrer que dans cette tempête, il fait confiance à sa première ministre. Il tente de garder un peu de stabilité au sommet de l'État alors que son camp se retrouve ébranlé. C'est aussi ce que certains appellent dans son entourage la stratégie du pourrissement. Autrement dit, attendre, prendre le temps, ne rien faire face à cette situation inconfortable. Le temps que l'orage passe, sans tirer les leçons, mais en tentant de déstabiliser dans le même temps ses adversaires. Stratégie éprouvée en Macronie. C'est d'ailleurs ce que fait Emmanuel Macron en donnant rendez-vous aux autres responsables politiques pour évaluer ses chances de pouvoir élargir sa majorité.
Jacques, dans le même temps, le président de la République enchaîne les rendez-vous avec les chefs de parti. Le socialiste Olivier Faure et le républicain Christian Jacob sont les premiers à s'être entretenus avec le président de la République, avec Emmanuel Macron ce matin.
Oui, Emmanuel Macron les reçoit un par un, toute la journée, une heure d'entretien chacun en tête à tête. Christian Jacob, le président des Républicains, était promis à se rendre ici à l'Élysée. Je vous propose de l'écouter juste après son échange avec le chef de l'État.
C'était un échange cordial, mais franc et direct. J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position dans l'opposition de manière déterminée mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation.
En fin d'après-midi, ce sera Marine Le Pen. En ce moment, c'est Olivier Faure, le patron du PS, qui s'entretient avec Emmanuel Macron. Alors que je dois vous avouer, Romain, que l'atmosphère est très étrange ici au Palais, dans cette crise politique. Et alors qu'Emmanuel Macron enchaîne ses rendez-vous, il y a des tests-sons, de la musique extrêmement forte jouée dans la cour de l'Élysée pour les préparatifs de la soirée de la fête de la musique qui se tiendra ce soir ici. Ambiance très, très décalée des enjeux discutés à l'intérieur du Palais.
Ah oui, effectivement, c'est baroque. D'un côté, les négociations et de l'autre à la préparation de la fête de la musique. Merci beaucoup Jacques Serret. À 17h30, c'est la future présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Marine Le Pen, qui sera reçue par Emmanuel Macron. L'ex-finaliste de l'élection présidentielle est galvanisée évidemment par l'élection de 89 députés RN dimanche dernier et elle compte bien rappeler au chef de l'État qu'elle a changé de stature. Écoutez.
Je vais lui exprimer la nécessité qu'il tienne compte évidemment du résultat des législatives. L'opposition, puisqu'il n'a pas de majorité absolue, l'opposition que nous sommes, le premier groupe d'opposition qui est celui du Rassemblement National, soit entendu dans un certain nombre domaines qui, pour nous, sont extrêmement importants. Les Français doivent être entendus dans ce qu'ils ont dit et exprimé par leur vote. Et il ne peut pas continuer la politique qu'il a menée, car cette politique n'a pas recueilli la majorité absolue aux dernières élections législatives.
Marine Le Pen interrogée par Victor Chabert pour Europe 1. Le mandat des députés élus dimanche dernier commence officiellement demain. En ce début de semaine, ils effectuent tous le voyage entre leurs circonscriptions respectives et l'Assemblée nationale. Et parmi eux, un élu a fait un trajet particulièrement long, environ 20 heures d'avion. Et pour cause, Thémataï Le Gaillic est élu de Polynésie française. Vous avez bien entendu, bah oui, sous la bannière de la NUPES. Et autre particularité, il a 21 ans. Il s'agit du plus jeune député de l'histoire de France. Alors forcément, en débarquant à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ce matin, Johann Tritz, il était assez ému.
Oui, et c'est d'ailleurs habillé d'une chemise à fleurs traditionnelle que Thémataï Le Gaillic est arrivé à l'aéroport, le sourire aux lèvres, même si la fatigue se fait ressentir.
On ne s'habitue pas du tout à ces 24 heures de vol.
Arrivé tout droit de Polynésie, deux jours seulement après sa victoire aux législatives, faisant de lui le plus jeune député de toute la 5e République. Une fierté pour l'homme de 21 ans.
Je suis content parce que ça met en avant la jeunesse. On est normalement des citoyens éclairés qui peuvent prendre des choix. La loi ne nous interdit pas de se présenter à 18 ans, alors il faut prendre ce courage à deux mains et de ne pas toujours dire que parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a 20 ans de carrière, qu'on est les plus légitimes à faire de la politique.
Une parole déjà très directe pour celui qui a dû mettre de côté ses études de sciences politique. Un choix assumé. Cette nouvelle vie au sein de l'Assemblée nationale ne l'effraie pas. Il a même hâte de pouvoir commencer à travailler.
On est à 20 000 km de l'Assemblée nationale. On n'a pas forcément le temps de rester longtemps parce que sinon on met de côté notre circonscription et on doit tout de suite se mettre au travail. Et c'est plus cette crainte de décevoir qui m'incombe. C'est pour ça aussi qu'on est excité peut-être. C'est de rentrer avec des avancées sur des dossiers importants.
Avec une priorité donnée à la préparation du processus d'indépendance de la Polynésie française.
Voilà, Thémataï Le Gaillic, le plus jeune député de l'histoire de France. Il n'a que 21 ans. Des stylos et des cahiers plus chers dans les rayons des supermarchés. C'est ce que craignent les parents qui commencent déjà, et oui, à faire leurs courses pour la rentrée prochaine. Une flambée des prix due à l'inflation. La FCPE, les parents d'élèves, demandent une revalorisation de l'allocation de rentrée afin d'aider les familles à remplir les cartables. La fédération FCPE qui veut en plus un versement dès le début du mois de juillet. Écoutez Éric Labastille, secrétaire général de la FCPE.
La courbe aujourd'hui de l'inflation, elle est plutôt sur une pente ascendante. Par exemple, les cahiers prennent 10%, les feuilles prennent entre 15 et 20%, et ça peut monter jusqu'à 40% pour certaines calculatrices. C'est un montant particulièrement important pour beaucoup de familles. En sachant en plus que le coût de l'année scolaire pour les familles, c'est pas seulement les fournitures, c'est aussi l'habillement et très certainement aussi une hausse des prix des cantines scolaires, de l'internat. Donc tout ça fait que les familles doivent anticiper au mieux toutes ces dépenses-là.
Éric Labastille, au micro d'Europe 1, d'Arthur Pereira. On n'est jamais assez prudent sur la route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les chiffres de la mortalité routière sont tombés ce matin. Ils ne sont pas bons. Forte hausse de la mortalité au mois de mai dernier, plus 21% par rapport à mai 2019. Avant la pandémie et les restrictions de déplacement. Le mois dernier, 293 personnes ont perdu la vie sur la route, au total dont 22 cyclistes. Il est midi 11, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de la fête de la musique, les 40 ans de la fête de la musique avec une fanfare un peu particulière, la fanfare de la police. A tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
Il est midi 12. Les Russes intensifient toujours plus leur offensive dans le Donbass ukrainien. Des destructions catastrophiques infligées ces dernières heures à la ville de Lysychansk, selon les autorités locales qui redoutent désormais une prise totale de la région du Lugansk, déjà contrôlée en grande partie par Moscou. Comment vivre quotidiennement dans un village situé à quelques kilomètres du front? Réponse, dans un village d'une centaine d'habitants, qui vivent depuis plusieurs mois au rythme de l'artillerie ukrainienne, qui tente de résister à l'armée russe. Reportage Europe 1 de notre envoyé spécial Nicolas Tonev.
La campagne, l'innocence, la guerre. Et Lyubov.
Je dirais que ça part du côté de Svitozavska.
Lyubov, 70 ans, paysanne depuis toujours, experte en tir depuis 3 mois.
Le pire, ce sont les arrivées. Ça fait... Et les dégâts quand ça tire comme les Katyusha. Ah voilà, n'aie pas peur. Après les tirs, ce sont les smirch. Mais rien de grave, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas dangereux pour nous. C'est dangereux pour eux là-bas, les Russes.
Une autre mélodie d'artillerie, mais maintenant c'est le quotidien qui s'impose.
Le camion d'eau. L'eau? Oui, ils arrivent. Depuis une semaine, l'eau est coupée, il n'y a plus de courant.
Il ne faut pas le rater, c'est un camion citerne qui passe. C'est combien de litres?
Un grivna 50.
Environ 3 centimes d'euros, cher pour les paysans. Un homme y renonce, discrètement.
Allez les filles, faites plus vite.
La vendeuse ne veut pas s'attarder. Aider Flomov et 3, oui. S'en éloigner, oui aussi. Seul l'incroyable Lyubov profite de sa place au premier rang.
Et vous les voyez s'envoler? Parce que moi je vois mal.
Arlomov et 3, sur la ligne de défense de Bakhmout, Nicolas Tonev, Europe 1.
Nous sommes le 21 juin, et le 21 juin, c'est l'été, mais c'est aussi, comme tous les 21 juin depuis 40 ans cette année, la fête de la musique, des concerts partout, dans les rues, avec des musiciens professionnels ou amateurs. C'est désormais une tradition dans le monde entier. Et si vous êtes à Paris ce soir, vous pourrez assister à la prestation, d'un orchestre assez spécial. L'orchestre, la fanfare, des gardiens de la paix. Et avant leur concert, en l'église Saint-Roch ce soir, Marie Jiquel, pour Europe 1, a pu assister aux répétitions. Reportage.
Ces musiciens suivent la partition, mais aussi un protocole strict, comme porter l'uniforme.
Sur la veste, le galon qui rappelle la feuille de chêne de commissaire, mais sur lequel figure également la lyre, symbole évidemment de la musique.
Gilda Sarnois est le chef de la musique des Gardiens de la Paix. Il est flûtiste et organiste. La particularité de son orchestre, le préfet de police de Paris valide le répertoire. Des morceaux joués pour des cérémonies officielles, des hommages aux soldats disparus, à l'accueil des chefs d'État étrangers.
On ne peut pas parer à l'hymne de ce chef d'État qu'on accueille.
Bon, évidemment, tous les corps de police, ici comme ailleurs, sont là pour assurer la sécurité, parfois aussi la répression. Et nous sommes là justement pour adoucir les mœurs.
Jean-Jacques Charles, le chef d'orchestre.
Il y a des messages qui passent beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, parce que les musiciens sont là.
Et en parlant de messages, ce soir, pour la fête de la musique, l'orchestre interprétera l'hymne à l'amour d'Édith Piaf.
Voilà, reportage de Marie Jiquel. L'hymne à l'amour ce soir, donc Église Saint-Roch, si vous êtes dans la capitale. Voilà, et autre information de Marie, le préfet valide le répertoire. Hein, la maison police est bien tenue. La météo avec Anissa Haddadi. Anissa, de nouveaux orages violents et des vigilances qui évoluent. Hein.
Oui, alors nous avons toujours ces 10 départements du centre-est entre l'Auvergne et les Alpes placés en vigilance orange aux orages. Ça remonte jusqu'au Doubs et au Jura. Attention, hein, là ça concerne des orages prévus pour 16h, entre 16h et 22h. Des orages qui localement pourront être forts avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Et puis, nouvelle salve d'orages qui nous arrive du sud-ouest avec 14 départements à l'instant mis en place par Météo France, vigilance orange. Ça va des Landes jusqu'aux Deux-Sèvres et puis de la Creuse au sud de l'Auvergne, l'Aveyron, la Haute-Garonne sont également concernés par ces orages qui risquent d'être violents sur des régions qui ont déjà été touchées ces derniers jours. Donc c'est une fin de journée agitée avec des orages. Le seul endroit où le temps reste sec et ensoleillé, c'est au nord de la Seine, entre la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 18. Olivier Faure est en train de répondre aux questions des journalistes. Il vient de rencontrer le président de la République. C'est à Emmanuel Macron de faire des propositions, dit le numéro 1 du PS. Christian Jacob, le président des Républicains, a été reçu un petit peu plus tôt. Il veut une opposition, il veut mener une opposition déterminée, mais responsable. On en parle avec vous. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. On est également avec le député LREM Roland Lescure et avec Guillaume Guérin des Républicains. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Chacun son tour depuis ce matin et jusqu'à cet après-midi, la fin d'après-midi et demain encore, les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale sont reçus par le président de la République qui cherche une solution pour gouverner. Comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir s'en sortir ? Comment le pays va-t-il pouvoir s'en sortir ? On en parle avec vous au 39-21 et avec Roland Lescure, porte-parole de la REM de La République En Marche et député des Français d'Amérique du Nord, et avec Guillaume Guérin, président de Loge de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France et président du parti Les Républicains en Haute-Vienne. Voilà, rebonjour à tous les deux. Olivier Faure, le numéro 1 du PS, est en ce moment en train de parler aux journalistes. Il vient de rencontrer le président de la République. Il dit que le président de la République mette des propositions sur la table. C'est en clair ce que disait également Christian Jacob à sa sortie de sa réunion avec le président de la République, Guillaume Guérin.
Absolument. Le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est une déroute pour la Macronie. Certains diront même que c'est le crépuscule de la Macronie qui est amorcé. Aujourd'hui, il va falloir que le président de la République trouve des alliés pour pouvoir réformer ce pays. Et je crois que le chantier est très lourd et très long.
Et tout le monde va négocier, essayer de récupérer quelque chose que...
Ah nous ne sommes pas dans la négociation. Nous avons présenté des candidats sur les 577 circonscriptions de France, estimant qu'il y avait une autre voie que la voie de NUPES, la voie de Mélenchon et la voie de M. Macron. Nous n'avons pas gagné ces élections législatives, pas plus qu'aucune autre formation politique d'ailleurs. Et donc nous sommes dans une opposition, comme l'a dit le président Jacob, déterminée. Mais constructive.
Déterminée mais constructive, ça veut dire qu'il peut éventuellement voter certains textes.
Il n'y aura
aucune
coalition de gouvernement avec M. Macron. Les choses sont claires. Les choses sont très claires. Vous avez peut-être une ou deux personnalités des Républicains qui font entendre une voix dissonante, qui ne sont d'ailleurs pas toujours parlementaires. Mais il n'y aura pas de coalition ni de pacte de gouvernance avec M. Macron. Il y aura des discussions texte par texte, au cas par cas, et nous avancerons nos idées à l'intérieur de ces textes qui seront débattus à l'Assemblée nationale sur des réformes structurantes dont le pays a besoin, notamment la réforme des retraites.
Roland Lescure, les grandes négociations, les grandes manœuvres ont commencé ?
Oui, d'abord, juste, on va en parler pendant des semaines, mais dimanche, c'est ni une déroute, ni une défaite. C'est pas la victoire qu'on anticipait, mais on est quand même encore, de loin, la première force politique en France. Les Françaises et Français ont donné une majorité au président. Elle n'est pas absolue, elle est relative. Je voudrais juste qu'on évite...
Elle est très relative.
Elle est relative, elle est très, très relative. Très relative, oui. Elle est très relative, mais elle est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gagnant a une responsabilité de faire en sorte que la France puisse être gouvernée. Et cette responsabilité, elle est aussi partagée par les partis présents à l'Assemblée nationale. Donc, c'était le devoir du président d'écouter les principaux partis présents pour les entendre sur ce qu'ils souhaitent faire. Si la seule chose qu'ils souhaitent faire, c'est attendre...
Mais le gagnant, j'allais dire, est manchot. Enfin, le gagnant n'a pas les manettes. Le gagnant n'a pas les manettes.
J'ai vécu pendant 10 ans au Canada des gouvernements minoritaires qui fonctionnent. Ça existe ailleurs. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas l'habitude de la France.
Non.
C'est arrivé quelques fois, peu de fois. Il va falloir qu'on apprenne à faire ça. Et j'entends bien M. Guérin, mais il y a des réformes d'importance. La première, par exemple, celle sur le pouvoir d'achat, sur lequel les groupes parlementaires présents à l'Assemblée, une fois qu'un projet de loi aura été présenté, vont devoir se prononcer. Est-ce qu'ils sont pour ou contre préserver le pouvoir d'achat des Français face à une crise internationale d'ampleur? Et ça, d'une certaine manière, chacun devra prendre ses responsabilités face à cette crise historique. Donc oui, on va devoir apprendre à fonctionner différemment au Parlement. Le président, aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est qu'il est prêt à faire ce pas. Et ensuite, on va voir si les autres partis présents à l'Assemblée le sont. En tout cas, nous, on est prêts à le faire.
Vous voyez le piège qui est en train de se refermer sur vous, pardonnez-moi, Guillaume Guérin des Républicains.
Le président est en train de faire ce pas. C'est extraordinaire comme formule.
Emmanuel vous Macron, le voyez, ce piège
Emmanuel
qui
Macron
se referme
a
ou pas
subi une déroute électorale. Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République par défaut, parce que je crois qu'il faut quand même en parler. Emmanuel Macron a été réélu en ayant choisi son duel. Il a créé Marine Le Pen, il a créé ce duel face à Marine Le Pen, et il a été réélu par défaut en bénéficiant d'un apport de voix de la social-démocratie et des voix de la droite républicaine qui ont voulu éviter un duel, pseudo-duel, entre M. Mélenchon et Mme Le Pen au présidentiel. Donc
M. Macron
a été élu par défaut. Aujourd'hui, il a essayé de jouer une deuxième fois avec les peurs sur ces élections législatives en disant ce sont nos candidats ou les candidats de M. Mélenchon. Le boomerang lui est revenu en pleine face. Et pardonnez-moi de vous dire, M. Lescure, M. Macron ne fait pas de pas vers les autres partis. Il n'a tout simplement pas le choix puisqu'il
Monsieur
lui manque 44
que
députés
Monsieur,
pour pouvoir faire passer ses réformes.
Que M. Mélenchon joue à qui perd gagne. Ça fait 5 ans qu'il nous fait le coup. Il perd élection après élection, il nous donne l'impression qu'il a gagné. Mais nous faites pas ce coup-là. Vous avez une 60aine de députés, tant mieux, ça vous permet de peser à l'Assemblée, d'avoir un groupe important, mais la majorité, certes relative, elle est chez nous et j'espère qu'on va pouvoir
pour avoir la majorité, il faut 289 députés. Vous en êtes très loin. Voilà.
C'est-à-dire que volonté,
si les autres groupes politiques ne votent pas vos textes,
non,
vous ne passerez
terminer.
Aucune réforme.
Déroute, il n'y a pas. Victoire relative, il y a, qui nous oblige à composer avec tous les députés de bonne volonté.
Midi 27, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on sera en direct avec Charles qui nous appelle de Rouen. Faut-il ou non un gouvernement d'union nationale? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un gouvernement d'union nationale. D'union nationale, nous dit Charles. Pourquoi? Bah tiens, on va l'entendre dans un instant. La petite pause pub, le flash, et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi, bienvenue à tous, bienvenue dans Europe Midi. Dans un instant, le débat reprend, mais tout de suite, c'est évidemment le flash, les dernières informations avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Le Conseil des ministres annulé, le gouvernement va tout de même se réunir tout à l'heure autour d'Elisabeth Borne. Le gouvernement au complet, puisque les trois ministres battus dimanche aux législatives seront présentes. Elisabeth Borne, qui a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, le chef de l'État l'a refusé. Il souhaite que le gouvernement reste à la tâche. Emmanuel Macron qui reçoit un à un les différents chefs de parti aujourd'hui pour chercher des solutions constructives et éviter un blocage à l'Assemblée. LR ne sera pas la roue de secours de la majorité, a déjà prévenu Christian Jacob, le patron de la droite. Le sud-ouest et l'ouest frappés par de violents orages, des orages parfois accompagnés de rafales de vent et de grêle, toitures cassées, pare-brise endommagées. Les dégâts sont considérables. 12 départements du centre-est sont en vigilance vigilance orage et ou canicule. Cet après-midi, un nouvel épisode orageux est attendu vers 16h de l'Auvergne au Jura. La guerre en Ukraine, les Russes contrôlent entièrement le village de Toshkivka sur la ligne de front. L'armée russe qui inflige aussi des destructions catastrophiques à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk dans le Donbass. Les dernières 24 heures ont été difficiles pour les forces ukrainiennes, avoue le gouverneur local. Les mauvais chiffres de la sécurité routière. La mortalité a bondi de 21% en mai par rapport à mai 2019. 2019, année de référence avant la pandémie. Et puis à 2 ans des JO de Paris, certaines épreuves déménagent. Le tir quitte la Seine-Saint-Denis qui accueillera en échange les phases de qualification du tournoi de boxe.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le gouvernement d'Union nationale, est-ce que c'est la solution? Tiens, on en parle dans Europe Midi parce que la situation politique est bloquée. À ce jour, il va falloir faire voter des textes et on ne va pas pouvoir passer 5 ans comme ça. On en parle avec vous au 39-21 et avec Roland Lescure qui est député des Français d'Amérique du Nord, député LREM, et Guillaume Guérin qui est chez les Républicains, président des Républicains en Haute-Vienne et président de Limoges Métropole. Charles est avec nous, vous nous appelez de Rouen. Charles, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'accorder ce temps de parole.
Ah ben merci à vous. Merci à vous de nous avoir appelés. Vous dites oui, vous, au gouvernement d'Union nationale. Pourquoi ?
Alors, déjà, j'aimerais clarifier le terme, parce que l'Union nationale, c'est un mouvement politique nationaliste de la fin du 19e. Mais si on entend par là une union des forces politiques présentes à l'Assemblée, alors je pense qu'il va être difficile, voire impossible, de mettre en place une union nationale qui pourtant est indispensable pour gouverner. C'est un peu le paroxysme du « en même temps » auquel on assiste, où après avoir profondément scindé la France pendant 5 ans, et où les gens ont voté à l'extrême, on nous demande de nous unir et d'aller tous ensemble dans une même direction. Bon, je pense qu'on est tous devant le constat que le temps des arrangements de parti est révolu, qu'il est temps de mettre un peu de côté les querelles politiques et d'établir un projet commun, même s'il sera insatisfaisant pour certains, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais que ça reflète la volonté de changement qui s'est exprimée dans les urnes à l'occasion des élections législatives.
Un projet commun, vous pensez à un projet, on met tout le monde autour de la table, on met, alors Jean-Luc Mélenchon n'est pas député, il n'a pas voulu se présenter, mais on met les NUPES, les RN, les LR et les LREM, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le pays ?
Déjà, je pense que l'abstention ne peut plus être le premier parti de France. Il faudrait pour ça s'inspirer un peu du modèle allemand, où il y a des divergences politiques, mais elles s'expriment, et elles s'expriment démocratiquement, mais il y a une rédaction d'un projet commun, où tout le monde y va de sa réforme, etc. Certaines sont prises, d'autres non. Mais il y a une volonté de se mettre autour de la table et d'avancer avec un vrai cap bien déterminé. Et je pense que c'est ce qui a manqué pendant 5 ans, c'est qu'il y avait des décisions prises de manière verticale, mais que le peuple l'a ressenti comme étant un système non consultatif, non participatif, où on était face à des faits accomplis, face à des choses imposées qui étaient parfois floues. La direction était floue.
Le cap politique était flou. C'est-à-dire que vous dites LREM, ce sont des décisions peut-être parfois pragmatiques, mais sans cap politique, sans structure politique.
En tout cas, je trouve que c'est flou. Je trouve que là, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le projet d'Emmanuel Macron pour les 5 ans à venir. On ne sait pas dans quelle direction il veut envoyer la France.
Eh bien, dis donc, Roland Lescure, député LREM, vous entendez, Charles, effectivement, il n'y a pas eu une vraie campagne. Il n'y a pas eu une vraie campagne présidentielle, il n'y a pas eu une vraie campagne des législatives. Il y en a une, mais LREM n'a pas fixé un cap extrêmement clair.
Non,
c'est vrai.
Bon, d'abord, Charles dit des choses très justes. Quand l'abstention est le premier parti de France, ça doit tous nous interpeller. Et chercher, je ne sais pas si on aura un gouvernement d'union nationale, vu les prises de parole des uns des autres.
C'est pour lancer le débat.
Exactement,
mais voilà,
je pense que ça lance le débat dans des bons termes. C'est comment on crée du rassemblement, là où on a eu effectivement un pays assez divisé, à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue. Alors, on peut être jugé responsable de cette division parce que majoritaire pendant 5 ans. Mais la réalité, pour avoir travaillé à l'Assemblée de manière très concrète, moi j'ai réussi à faire des deals, comme on dit, à faire avancer des projets de loi avec des communistes, des socialistes, des républicains. Jamais avec les Insoumis, jamais avec le Front National. Ça donne une idée de ce qu'on pourrait peut-être faire pour avancer ensemble. Moi, j'entends le modèle allemand, ce n'est pas le modèle culturel français, mais en tout cas, on peut s'inspirer de ce qui existe ailleurs, de manière à ce que, peut-être pas dans une logique de plateforme commune, vous l'avez dit, je ne suis pas sûr que les partis présents à l'Assemblée soient tout à fait tous réconciliables, mais sur des sujets communs. Moi, je pense que, je le répète, le pouvoir d'achat, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on doit pouvoir se retrouver.
Mais ça dure qu'un temps. C'est-à-dire, un coup, on vote avec le PS, un peu de PS, un peu de LR, parce que ça va être compliqué chez LR.
Écoutez, on est dans une... Vraiment, hein, je ne veux pas dramatiser les choses, mais on est face à une situation économique extrêmement incertaine. Et je pense que ce que Charles dit est juste. Il y a un moment où la responsabilité collective doit l'emporter.
Vous nous dites ça, monsieur le député LREM. Tous les députés LREM que j'ai reçus avant les élections législatives nous disent « Regardez, le chômage baisse, on se dirige vers le plein
Évidemment.
Emploi. » Et là, vous nous dites la situation économique est compliquée.
Et la réalité, c'est que depuis 5 ans, le chômage a baissé et a atteint un plus bas depuis 40 ans. Et depuis 5 mois, la guerre frappe aux portes de l'Europe. Donc, il faut être conscient de ces incertitudes, essayer de rassembler sur des projets plutôt que sur un programme, parce que ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. On va voir ce que nous disent les chefs de parti aujourd'hui, ce qu'ils disent au président. Mais globalement, je pense que sur des sujets particuliers, oui, ça durera ce que ça durera. Mais essayons au moins de montrer qu'en France, on est capable de travailler ensemble. On l'a fait sur des projets particuliers pendant 5 ans. Continuons à le faire.
Guillaume Guérin, des Républicains. Le piège avant la petite pause publicitaire, mais il est devant vous. Si vous ne votez pas les textes, vous faites de l'obstruction. Et si vous voulez voter...
Pardon Romain, mais ça c'est beaucoup trop facile ça. Aujourd'hui, la majorité présidentielle a perdu les élections législatives. C'est factuel, elle n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc à partir de ce moment-là, elle essaye de rejeter la faute sur les autres partis de gouvernement en leur disant « si vous ne votez pas avec nous, vous êtes dans l'obstruction ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous payons l'absence de débat de l'élection présidentielle. Pas de débat, pas de mandat. Un certain nombre d'observateurs de la vie politique avaient prévenu le président de la République, pas de débat, pas de mandat. Et aujourd'hui, on retrouve une France qui est totalement fracturée, avec un groupe RN qui atteint les 90 députés, 89 députés dans l'hémicycle, une France insoumise qui n'a jamais été aussi puissante, etc. etc. Le seul peut-être avantage de cette situation, c'est qu'on va enfin retrouver une Assemblée nationale et un Sénat, un Parlement, qui va retrouver toute son utilité et qui va permettre de dégager des consensus et des compromis sur les textes. Compromis ne veut pas dire compromission. Vous pouvez très bien réformer le pays, texte par texte, sur une majorité d'idées ou sur une majorité de projets. Mais nous concernant, nous n'allons pas être la roue de secours ou la courte échelle à M. Macron et être les supplétifs de gens qui ont à la fois piétiné le Parlement pendant des années, qui ont piétiné les maires. Moi, je suis un élu local, je peux vous en parler. S'il n'y avait pas eu les maires pour gérer la crise Covid, ça aurait été une bérésina totale.
Monsieur
Guérin, faut quand même se souvenir que ce gouvernement a créé le hashtag « balance ton maire » à l'époque. Les élus locaux en ont pris plein la tête. Donc oui, je crois que Jupiter, c'est fini. Je crois que cette verticalité permanente et ce mépris des oppositions, c'est fini. Et le Parlement va peut-être enfin retrouver un rôle extrêmement important qui doit être le sien dans les équilibres de la Ve République.
Guérin,
et je rappelle
match,
à nos auditeurs qu'aujourd'hui, la formation politique qui a le plus de parlementaires en France... Sénateurs et députés confondus, bon. Ce sont les Républicains.
Donc nous avons, vous avez gagné,
nous
tout
avons,
va bien.
Pas du tout.
Vous avez gagné.
Nous avons,
est-ce qu'on peut essayer
nous
de regarder vers l'avant, M. Guérin ?
Nous avons un enjeu énorme qui se pose à nous. Nous devons être à la fois responsables, c'est-à-dire ne pas bloquer bêtement et inutilement toutes les réformes qui pourraient être proposées par le gouvernement. Mais nous ne pouvons pas devenir demain matin les supplétifs de la Macronie parce que nos électeurs qui ont voté pour nous, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec le président.
C'est une ligne de crête qui va être compliquée. Roland Lescure.
Non mais juge, j'ai entendu les éléments de langage sur la roue de secours. L'idée, ce n'est pas de changer un pneu crevé. On parle de la démocratie française et des institutions qui fonctionnent. On peut refaire le match des 5 dernières années. On peut faire le match des 4 derniers tours des élections où on peut regarder en avant. Les Françaises et les Français, ils ont voté, ils ont jugé, ils nous ont envoyé un message qui pour moi est très clair, qui est finalement assez proche de celui du premier tour d'élection présidentielle. On souhaite qu'Emmanuel Macron soit en charge des affaires du pays et qu'il collabore avec toutes celles et tous ceux qui souhaiteront le faire. Et moi, j'entends dans votre discours, en fait, une partie de ça. Je préfère voir le verre aller au quart plein de votre discours plutôt que le verre aux 3/4 vide. Je pense qu'on peut effectivement collaborer avec des forces.
Le jour où vous admettrez qu'Emmanuel Macron a été élu par défaut, on aura fait un grand pas.
Mais non, mais vous mettez en question la légitimité d'une élection...
Non,
qui elle-même a été
pas
pensée par le général
je
de Gaulle.
Je vous dis qu'il a été élu par défaut.
Si je ne m'abuse,
si les électeurs de droite avaient su que M. Papendaye allait devenir ministre de l'Éducation nationale, je peux vous dire que beaucoup n'auraient pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour. On a voté pour une pochette surprise.
Guérin,
on ne sait pas pour qui on a voté, ni quel est le programme.
Et
donc ça donne les résultats que l'on a à l'Assemblée nationale.
À l'Assemblée nationale, comme sur les plateaux, en s'écoutant les uns les autres, parce que sinon, je pense qu'on va se retrouver avec une manière de discuter dont les Françaises et les Français ne veulent plus.
Olivier, restaurateur, 48 ans, vous nous appelez de Loire-Atlantique. Vous êtes où à Nantes, Olivier ?
Oui, je suis à Nantes.
Vous êtes à Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation politique, de ce gouvernement d'Union nationale? C'est une bonne idée, une mauvaise idée? Je mets ça sur la table, hein. Il y a d'autres sujets, mais le pays, pour l'instant, est quand même politiquement bloqué, hein. C'est la situation à 12h41, hein.
Bah, moi, je pense que ce serait la solution nécessaire. C'est un mal nécessaire, mais notre classe politique n'est pas à la hauteur.
Ah.
En fait, notre système politique aujourd'hui est complètement verrouillé par les partis. En fait, quand vous entendez nos élections locales, comment les gens réagissent? Ils réagissent en logique de parti. En fait, aujourd'hui, nous, moi, en tant que petit entrepreneur, j'ai pas le temps d'attendre 5 ans que M. Guérin, par exemple, moi, je suis plutôt de sensibilité LR, je le dis clairement.
D'accord.
Mais quand j'entends ce qui me fait appeler aujourd'hui, c'est la réaction de Christian Jacob le soir de l'initiative. M. Jacob a le temps, lui, pendant 5 prochaines années, de savoir si la position sera bonne pour lui, s'il sera peut-être Premier ministre, en se couchant avec sa femme le soir, il se dit quoi? Quel poste je vais prendre dans 5 ans, quand ce sera Barouin, président de la République? Nous, tout ça, on n'en a rien à faire, vous comprenez? Nous, on ne trouve pas de salarié aujourd'hui, vous comprenez? Si les gens, si les LR ne vont pas voter les textes sur lesquels on les attend, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, aujourd'hui, on ne trouve pas de salarié. Et on a des centaines de milliers, des millions de gens qui sont chez eux. Quand on entend M. Guérin dire que M. Macron n'a pas gagné les élections, mais ils n'ont pas gagné non plus. Donc, qu'ils se mettent en travail pour nous. Parce que l'abstention aux prochaines élections, ce n'est pas 40 ou 50%. Ça va être 70. Mais est-ce que ça ne les arrange pas, en fait, un petit peu, l'abstention? Parce que ça fait quand même 25 ans. Moi, j'ai 48 ans. Ça fait 25 ans qu'ils se lamentent sur l'abstention. Est-ce que vous pensez que n'importe quel chef d'entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou une très grande entreprise, il peut laisser filer comme ça son activité, ses affaires pendant 25 ans? Non. Ils ont les moyens, ils ont les médias, ils ont le pognon, tout le pognon qu'ils veulent. Ils ont tous les moyens, ils ont le référendum pour faire revenir les gens aux urnes, et ils ne le font pas. Est-ce que ce n'est pas un petit entre-soi bien confortable? On fait semblant de s'écharper à l'Assemblée nationale, et puis après, on est bien content de pouvoir renouveler son mandat.
Si je résume votre message, Olivier, vous dites, en l'occurrence au LR, mais à tous les députés, bossez les gars, au boulot, et votez pour l'intérêt général et accessoirement pour nous, c'est ça?
Mais les LR, vous serez deux à l'Assemblée nationale dans 5 ans, si vous ne votez pas les textes qui vont dans le sens des entrepreneurs, vous serez deux. Vous savez que pour faire pousser les tomates bio dans notre région, un mec qui a 40 salariés, il a 40 roumains. Vous êtes au courant de ça? Et là, vous êtes en train de vous écharper si oui ou non, on va voter les textes? Non, mais arrêtez ça. La politique politicienne, c'est ce qui fait l'abstention. C'est la raison pour laquelle je vous demande si ce n'est pas une volonté de votre part. En plus, faire un gouvernement d'union nationale, si ce n'est pas avec les LR, c'est avec qui? Vous avez entendu les interventions de LFI le soir des législatives? Vous avez entendu Sandrine Rousseau? Vous avez vu le programme de Mélenchon qui veut me donner 1063 euros à partir de 18 ans. Mais c'est pas la retraite à 60 ans ni à 65 ans, c'est la retraite à 18 ans. C'est la retraite à 23 ans. C'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Ils prennent leur retraite à 23. Dans la restauration, les mecs, ils rentrent, ils sortent, ils bossent 8 jours, ils repartent, ils partent en vacances, ils mangent à Too Good To Go et ils se déplacent en blablacar. Enfin, là, il y a des choses sur lesquelles on attend, enfin moi en tout cas, et on n'est pas seul, hein. On attend sérieusement que les Républicains votent certains textes. Parce que moi, pour ma part, c'est la dernière fois que je vote Républicain s'ils ne sont pas au rendez-vous. Et je suis un petit commerçant.
Ouais.
Voilà.
Vous seriez tenté de voter qui alors, si ce n'est plus les Républicains?
Oh bah, je pense au centre. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Moi, mais par contre, il y a quand même des moyens pour ramener les gens aux urnes et me faire voter. Je sais que j'étais loin, très loin des Gilets jaunes. La seule chose, le référendum, poser les bonnes questions aux gens sur le pouvoir d'achat, l'insécurité, essayer de ramener petit à petit le réflexe du vote. On a aussi besoin, moi, si j'étais le président Macron aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, par n'importe quel moyen, je ferais connaître les textes qui ont été votés et non votés par les groupes à l'Assemblée. Je pense très sincèrement aujourd'hui que si Macron proposait la semaine de 30 heures avec 8 semaines de RTT et 15 semaines de congés payés, LFI ne voterait pas uniquement pour pouvoir se projeter dans les années qui arrivent et prendre le poste. On a besoin de savoir qui vote quoi, parce qu'après ça se résume tout simplement à des petits combats de coq sur les plateaux télé en disant « c'est faux madame, nous avons voté » ou alors « on a besoin de savoir qui vote quoi ».
Colère d'Olivier. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé de la Loire-Atlantique. Guillaume Guérin vous répond dans quelques instants. Il y a une petite pause publicitaire. On est obligé, bien sûr. Quelques secondes, quelques minutes. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Europe Midi, merci d'être avec nous. 12h49, on était à l'instant avec Olivier, restaurateur à Nantes, en Loire-Atlantique, qui nous a appelé et qui s'est adressé à vous, Guillaume Guérin. Il disait, je vote plutôt républicain et je dis aux républicains, faites quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais Olivier a raison. Moi, dans mon département, des chefs d'entreprise comme lui, j'en rencontre tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'il demande aux républicains, c'est d'être en responsabilité dans l'exercice de leur mandat à l'Assemblée nationale. Mais nous ne disons pas autre chose. Nous disons que nous débattrons avec la majorité, qui n'en est pas une à l'Assemblée macroniste, sur tous les textes.
Et
nous
c'est une majorité, mais qui n'est pas absolue, c'est une majorité relative.
Nous aurons des amendements qui seront portés par notre groupe pour enrichir les textes. Mais on ne peut pas se retrouver piégé, si vous voulez. Encore faut-il, quel est le cap, qu'on en connaisse le cap que va impulser M. Macron. Parce que ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Quelle est la position de M. Macron sur les retraites ? Nous avons été très clairs sur la réforme des retraites.
Bah, c'est 65 ans, peut-être 64. Pour l'instant, on en est resté là.
Là, c'est peut-être dans la Macronie. Mais nous avons un texte qui est très clair, pour lequel nous n'avons pas recueilli la majorité des suffrages des Français, mais nous sommes très clairs. Donc, il y aura des amendements dans le sens pour lequel nous nous sommes engagés sur cette réforme auprès des Français. Donc, nous serons constructifs dans les débats que l'on aura avec la majorité, on l'a dit. Mais encore une fois, et là, pardonnez-moi Olivier de vous dire que c'est très différent d'être constructif texte par texte que d'accepter un pacte de gouvernance avant même de savoir quels vont être les textes qui vont être soumis au vote des députés. Parce qu'aujourd'hui, le piège qu'essaye de nous tendre M. Macron, c'est très simple, c'est nous faisons une coalition, on ne sait pas pourquoi faire, mais vu qu'on a besoin de vos voix après vous avoir piétiné pendant des années, on a besoin de vos voix, donc rentrez avec nous en coalition. Mais pourquoi faire ? Nous, ce que l'on veut savoir, c'est pourquoi faire ? Quelle est la proposition sur la réforme des retraites ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'école ? Qu'est-ce qu'on fait sur le monde judiciaire ? Etc. etc. Quelles sont les propositions de l'exécutif en la matière ? Et puis, je vais en terminer là-dessus.
Oui.
Vous savez, moi, je suis un élu local dans une agglomération de 215 000 habitants.
Limoges.
Politiquement,
Limoges,
je suis minoritaire. Et pourtant, je suis président. Moi, j'ai une culture de la co-gestion et de la co-construction. Je gouverne avec 6 vice-présidents de gauche, 6 vice-présidents de droite, 2 vice-présidents en marche. Et ça n'empêche pas d'avoir eu 98% de mes délibérations adoptées à l'unanimité depuis que je suis élu. Je crois qu'on peut trouver des consensus et qu'on peut trouver des compromis politiquement. Mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et j'entends bien cette petite musique qui consisterait à dire « Les Républicains sont les méchants, ils ne veulent pas donner une majorité à Macron ». Ben non, puisqu'ils n'ont pas été élus sur le même projet.
Bravo. Pourquoi faire alors les scurs députés LREM ?
Non mais bravo Olivier. Oui. Je veux dire, moi j'ai travaillé 25 ans dans le privé et dans le public avant de me lancer en politique à 50 ans. Je ne ferai pas ça toute ma vie. Moi je donne 10 ans de ma vie pour faire avancer la France de manière pragmatique, opérationnelle. Je suis fier du bilan des 5 dernières années. Il a été réélu, mais avec une majorité relative et personne ne le nie. Maintenant, continuons en responsabilité sur des textes de qualité qui feront avancer la France ensemble, tous ensemble. En tout cas, tous ceux qui souhaitent. Je suis très heureux qu'à Limoges ça fonctionne. Moi, je souhaite qu'à Paris, ça fonctionne aussi.
Florian est avec nous. Bonjour Florian, vous êtes infirmier, 29 ans, vous nous appelez de Lyon. Vous dites, selon moi, la vraie question est-ce faisable, ce gouvernement d'union nationale ? Vous n'y croyez pas vraiment, hein ?
Alors bonjour et merci de me donner la parole.
Bonjour
d'abord.
Florian.
Alors,
merci à vous.
Tout à fait, je pense que ça n'est même pas possible. Enfin, une union nationale aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on est dans le même gouvernement et donc toutes les semaines dans le même Conseil des ministres, des ministres RN avec des ministres LFI ou NUPS. Et moi, personnellement, je pense que ça n'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français ont envoyé un message aujourd'hui, c'est qu'ils en avaient marre du mépris de l'opposition, du mépris d'un gouvernement qui ne faisait qu'à sa tête, finalement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a une majorité relative et doit écouter l'opposition, va devoir faire des compromis. Et ça ne peut pas faire de mal à la France. Et voilà, je pense que c'est le message, en tout cas, que voulaient envoyer les Français.
Merci beaucoup, Florian, de nous avoir appelé de Lyon. Voilà, il va devoir faire des compromis. Ça, de toute façon, il va être obligé. Hein, parce qu'à ce jour.
Non, mais moi, je n'achète pas l'histoire du mépris, mais je comprends que certains aient pu le percevoir comme tel. Mais la réalité, c'est qu'on regarde en avant maintenant, qu'on a besoin de gouverner la France vers l'avant, ensemble. Et en faisant effectivement des accords, sans doute au cas par cas, et pas des accords de gouvernement, avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Et il y en a à l'Assemblée, j'en suis sûr.
Une petite question, tiens, Guillaume Guérin des Républicains. On parle pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui ferait que votre famille politique vote le texte ? Quelle est la mesure que vous pourriez demander au gouvernement, à la majorité ?
Pardonnez-moi, mais de quel texte on parle ?
Pouvoir d'achat.
Moi, je ne l'ai pas vu encore, le texte.
Moi non plus.
Bon,
on en parle beaucoup.
Le député qui est à côté ici ne l'a pas vu non plus, ce texte, puisque pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc, nous allons voir ce qu'il y a
justement, qu'est-ce que vous aimeriez
aujourd'hui, mettre dedans.
Soyons très concrets.
Aujourd'hui, il y a des urgences, bouclier énergétique.
Donc ça, vous êtes pour.
Pour les particuliers comme pour les collectivités. Vous savez, aujourd'hui, les collectivités sont en train d'être ruinées.
Elles ne sont plus
en capacité d'offrir du service à leur population et ça impacte directement les populations sur les terrains. Donc le bouclier énergétique pour les privés comme pour les collectivités, mesure d'urgence et abaissement du prix du gasoil à la pompe.
Merci à tous les deux. Roland Lescure, tiens, on parle beaucoup de vous pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez un commentaire ?
Non, pas de commentaire. On a des postes ouverts, malheureusement d'ailleurs, parce que Richard Ferrand et Christophe Castaner ont été défaits. Je le regrette.
Oui.
Ils vont manquer à l'Assemblée nationale, ils vont manquer à la France. On a nos procédures internes. On a besoin de créer, on l'a vu, du compromis.
Et vous aimeriez être président de l'Assemblée nationale ?
Moi, ce que je souhaite, c'est contribuer vraiment à ce mouvement vers l'avant. On a 5 ans devant nous pour rassembler la France, en tout cas avec tous ceux qui ont de la volonté. J'espère en faire partie, ça c'est sûr.
Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas un non, en tout cas. Merci beaucoup.
C'est pas un non,
bien sûr. Merci beaucoup, Roland Lescure, député LREM. Merci beaucoup, Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole.
Merci à vous.
Et président du Parti des Républicains en Haute-Vienne.
Merci.
12h55. Merci d'avoir suivi Europe Midi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, bien sûr, dans un instant. C'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth et bonne émission.
Merci Romain. À demain pour un nouvel Europe Midi.